Au midi de Toulousain, Radio Occitanie 98.3.
98.3.
Radio Occitanie, l'émotion du pays.
Radio Occitanie, l'émotion du pays.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h. Aujourd'hui, je reçois avec grand plaisir Maudit Pio. Bonjour Maudit.
Bonjour Claire.
Ainsi que Alain, son mari. Bonjour Alain.
Bonjour à tout le monde.
Et donc nous allons parler donc de ce livre que Maudit Pio a écrit et a publié en décembre 2004, intitulé « Mes yeux s'en sont allés » et avec comme sous-titre « Variations sur le thème des perdants la vue ». Alors, il est édité aux éditions L'Harmattan à Paris et il est disponible en 3 versions, version normale, version agrandie pour ceux qui n'y voient pas bien et version CD audio pour ceux qui préfèrent l'entendre dans leurs oreilles ou qui n'ont malheureusement pas d'autre choix. Voilà, donc on va commencer un petit peu par parler de Maudit Pio, donc, qui habite à Paris, mais qui est parmi nous, pas très loin, à Perpignan en ce moment, et qui est venu donc nous voir, et on la reçoit avec grand plaisir. Donc votre parcours, Maudit Pio, c'est d'abord...
Alors bonjour à tout le monde, mon parcours, c'est que d'abord je suis catalane et émigrée à Paris, parce que c'est l'endroit où on trouve le plus facilement, du moins de mon temps, du travail, mais j'ai un cœur catalan. Et donc mon parcours, c'est que je suis atteinte d'une rétinite pigmentaire et qui est une maladie génétique, comme peut-être beaucoup d'entre vous le savent, et on perd la vue jour après jour, instant après instant, ce qui est quelque chose de tout à fait particulier. Donc ça a été mon aventure, mon histoire de vie, si je puis dire. Et après avoir eu un parcours un peu particulier où j'avais commencé des études de médecine, puis infirmière, puis kinésithérapeute, et comme on perd la vue, eh bien infirmière, médecin, ça je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, même si j'ai mon diplôme d'infirmière. Et en étant kinésithérapeute, j'ai travaillé en psychiatrie, j'étais passionnée par la psychiatrie, donc je suis devenue psychanalyste et psychothérapeute. Et pendant toutes ces années, eh bien ma vue baissait, je perdais la vue, un peu comme le soleil qui se couche au fond de l'horizon. Et lorsque j'ai eu à faire un DEA pour pouvoir aller jusqu'à une thèse, j'ai eu envie d'écrire mon DEA entre l'œil et le regard. C'est-à-dire que je dis toujours, on peut perdre la vue, mais on ne perd jamais le regard. Le regard, il est quelque chose d'affectif que l'on ne perd jamais. Et puis j'ai eu envie, une fois que ce DEA a été écrit, eh bien de faire un livre qui raconte cette histoire absolument particulière, passionnante, douloureuse, de ceux et celles qui perdent la vue jour après jour. Voilà.
C'est très émouvant. Le livre est très, très émouvant parce que les choses sont tellement, sont dites simplement. Bon, il y a des références un peu à des psychanalystes comme Freud, Lacan. Mais bon, c'est quand même écrit simplement et surtout c'est très, très vrai. Enfin, on imagine que c'est très vrai, même si les gens qui ne sont pas directement concernés ne sont pas censés savoir. Mais c'est très vrai et c'est surtout très, ça, quand on le lit, on ne peut pas rester indifférent quand on referme la dernière page du livre, même si on n'est pas concerné directement, quoi.
Oui, mais je crois que c'est très important ce que vous dites, Claire, parce que je crois que les personnes qui perdent la vue et celles qui ont la chance de la garder sont effectivement concernées par ce livre, dans la mesure où on peut côtoyer quelqu'un qui perd la vue. Et c'est une situation très difficile à comprendre d'être un perdant la vue. Quand on est aveugle, on sait que la personne n'y voit plus du tout. Quand on est voyant, on sait ce que c'est que d'être un voyant. Mais quand on est un perdant la vue, on est entre les deux. On n'est ni voyant ni aveugle. C'est ce que j'essaie de raconter dans ce livre. Et que l'on croise des situations qui engendrent des quiproquos, qui font que l'autre ne nous comprenne pas. Parce que par exemple, quand on perd la vue, on peut voir un trombone qui est tombé à terre et le ramasser tout de suite. Et par contre, on va se cogner dans une porte ouverte. Parce que c'est ça toute l'histoire, j'allais dire, terrible, douloureuse, de ceux qui perdent la vue au quotidien, c'est qu'ils ne savent jamais ce qu'ils vont voir au moment où ils sont en train de percevoir quelque chose.
Ouais, ils regardent quelque chose et il suffit que ça ne soit pas dans leur champ visuel direct. Et donc,
exactement,
ils passent à côté de l'objet en question.
Tout à fait.
Donc moi j'ai relevé, donc on peut dire que votre livre s'articule sur plusieurs, comment on pourrait dire, sur, donc bon, la postface, il y a une préface déjà, on va commencer par le début, oui. Il y a une préface d'un médecin,
du professeur Corbet, oui.
Voilà, qui est généticien à Paris.
Non, le professeur Corbet, c'est un ophtalmologiste qui travaillait autrefois avec les militaires parce qu'il s'intéressait beaucoup aux pilotes et que c'est très important que les pilotes aient une très bonne vue. Donc il a travaillé beaucoup en ce qui concerne la vision et il s'était intéressé progressivement aux personnes qui perdre la vue. Et il a créé l'Ariba avec d'autres personnes.
À Nîmes,
à Paris. Enfin, l'Ariba, le siège est à l'hôpital des Invalides. Et puis, bon, maintenant, il est ailleurs. Ça dépend. Les présidents changent, comme dans toutes les associations. Et le professeur Corbet, Christian Corbet, qui est un ami, est quelqu'un qui vraiment perçoit très bien qu'est-ce que c'est qu'être un perdant la vue. Alors, perdant la vue, ça peut être des rétinopathes, ça peut être des personnes qui ont des glaucomes, c'est des personnes qui ont une forte myopie, des personnes qui ont une dégénérescence maculaire liée à l'âge.
De la DMLA, oui,
voilà,
qui est de plus en plus fréquente dans le monde entier actuellement.
Et Christian, ce qu'il a essayé de faire comprendre, c'est qu'il faut utiliser au maximum notre reste visuel. Donc, il y a maintenant une rééducation basse vision qui se généralise de plus en plus en France, même si le départ a été Paris. C'est-à-dire que même si on perd la vue, eh bien, on utilise le reste visuel. Et avec ce reste visuel, on peut faire des tas de choses. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, même si ça provoque parfois des situations quasi comiques ou quasi tristes, hein, ça dépend.
Oui, on va y revenir. Moi, ce que je propose dans un premier temps, donc la préface donc, par ce professeur, on signalera, on discutera tout à l'heure avec Alain, votre époux, parce qu'il a fait la postface de votre livre.
Et
beaucoup d'autres choses. Il vous soutient, il est présent, il est là. Et moi, ce que je vous propose, c'est de lire derrière le livre. Il y a un petit extrait, d'ailleurs, du livre retrouve. Et je vais le lire pour donner une petite idée quand même aux gens de ce qu'ils pourront trouver dans votre livre. Donc, je commence à lire. « Cela faisait sûrement des mois que je ne me voyais plus, mais je ne pouvais pas me le dire. Un jour, j'ai dû me dire, c'est fini, je ne vois plus mes yeux. J'avais l'impression qu'il y avait un trou béant dans le miroir. J'étais engloutie par l'angoisse de ne plus me voir. Je ne l'ai toujours pas dit à mon mari, c'est mon secret. Je garde pour moi ce que je suis en train de perdre. » Ah, c'est magnifique, je veux dire, c'est magnifique dans le sens où c'est écrit d'une façon très juste. Et voilà, la personne dans le livre dit ça parce que voilà, elle ne veut pas dire à son mari qu'elle ne se voit plus dans le miroir et elle garde en elle ce secret.
C'est ça, parce que si vous voulez, une grande caractéristique des perdants la vue, c'est comment on perd la vue jour après jour, on s'aperçoit de la perte qu'à un certain palier.
C'est évolutif jour après jour. Ce n'est pas demain, avez 3/10 en moins.
C'est très lent. Mm-hmm. Et je crois que beaucoup de perdants la vue, bien, se gardent ça au fond de leur cœur avant de pouvoir le partager avec l'autre. Parce qu'une des caractéristiques des perdants la vue, c'est qu'on espère toujours que l'évolution sera la plus lente possible et que ce qu'on a perdu, on ne l'a pas vraiment perdu. Parce qu'il y a tout un travail intérieur à faire.
Et puis que ça peut s'arrêter. Ça peut aussi se stabiliser pendant des années ou voire des mois. Enfin, ça dépend des individus. Il n'y a malheureusement pas de généralité.
Et le dire à l'autre, c'est confirmer la perte. C'est pour ça
c'est valider ce qu'on a perdu.
C'est pour ça qu'on ne le dit pas tout de suite.
Bien sûr. Bah justement, au début du livre, il y a tout un chapitre où justement vous expliquez souvent ce besoin de cacher qu'ont les rétinopathes et donc d'autres, pas que les rétinopathes, mais les perdants la vue. Et je vais simplement lire quelques phrases qui m'ont interpellée et que vous pourrez, si vous voulez, expliquer ensuite. Donc, ce besoin de cacher, de ne pas voir, développe un surmoi héroïque, c'est-à-dire une tendance à lutter, à combattre et faire comme si tout allait bien, comme si l'on voyait vraiment. Donc déjà, voilà, donc on cache mais on essaye de faire comme si on voyait, finalement.
Tout à fait, parce que déjà les autres ne comprennent pas, parce que très souvent dans le regard des perdants la vue, il n'y a aucune anomalie. C'est pas quelqu'un qui a un œil abîmé ou qui a un œil crevé ou qui n'a pas d'œil chez certaines personnes aveugles. C'est-à-dire que souvent le regard reste clair, reste précis. Et parce qu'on s'accommode de sa perte et on surcompense la perte en voulant rester du côté des voyants. Donc surtout, on développe ce surmoi héroïque pour rester du côté du voyant. C'est ça peut-être qu'on pourra travailler un jour, c'est que notre désir, c'est de ne pas basculer du côté des aveugles. Et tant que l'on peut, on veut rester du côté des voyants. D'une part parce que si on est du côté des voyants, on risque moins au niveau de son travail quand on travaille. On risque moins dans sa vie familiale parce que quelqu'un qui perd la vue, ça engendre des réactions tout à fait imprévues. Donc on veut rester du côté des voyants et on développe sur ce moi héroïque. C'est-à-dire si on se cogne, on ne le dit pas. Si on ne voit pas bien, on dit oh ben, j'ai été distraite. Enfin, on cherche tout le temps des compensations.
Des excuses, voilà. Voilà. Et après, c'est écrit, le handicap n'est pas une maladie, mais un défi à relever. Alors on sent qu'effectivement, il y a toujours cette notion de lutte, de combat, qu'il faut toujours aller au-delà de ses limites finalement. Plus peut-être que quelqu'un qui n'a pas de handicap, peut-être.
Alors, je pense que ma génération, nous avons beaucoup été élevés dans le déni du handicap et du handicap visuel en particulier. Je crois que la jeune génération, maintenant que le diagnostic de rétine pigmentaire, de glaucome, de myopie est bien posé, ils ont moins besoin de ce déni, ce qui est formidable d'ailleurs. Hein.
Oui.
Et peut-être qu'ils se battent aussi moins. Alors je ne sais pas, il faudrait qu'on ait une discussion là-dessus. Est-ce qu'il faut mieux développer sur son moi héroïque ou est-ce qu'il faut mieux être plus cool avec son handicap visuel? Je ne sais pas ce qui est le mieux. Chacun trouve la manière dont il le vit. Hein. C'est une histoire unique de perdre la vue. Personne ne la perd de la même manière.
Oui, donc c'est difficile de se faire comprendre par les autres, même avec tout l'amour qu'ils peuvent ressentir pour vous, j'imagine.
C'est très, très difficile. Très souvent, je crois que dans le livre, je dis quelque part, c'est difficile d'expliquer aux autres. C'est très difficile d'expliquer aux autres comment on perçoit les choses, comment on voit, et l'autre aussi ne saisit pas comment on voit. Parce que, par exemple, je crois que dans le livre, il y a une anecdote où quelqu'un dit à une personne qui perd la vue, mais je ne peux pas imaginer que tu perds la vue, tu as un regard clair, tu marches vite, je me dis, mais c'est pas possible, et tout d'un coup, tu tournes dans une rue où la luminosité ne te convient plus du tout, et là, tu as l'air d'un papillon qui se cogne partout.
Tout à fait.
Voilà. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on déconcerte l'autre, donc l'autre, déjà, c'est angoissant d'être en face de quelqu'un qui perd la vue, là, on pourrait en revenir sur le plan psychanalytique, mais en plus de cela, l'autre, il ne comprend pas. Quelques minutes avant, il a l'impression qu'on y voit, et 30 secondes après, on est aveugle. Parce que la luminosité a changé, parce qu'on est plus stressé, parce qu'on est dans un environnement inconnu. D'ailleurs, je raconte l'histoire aussi dans le livre de l'inquiétude étrangeté, hein, dont parlait Freud.
Oui.
Et je crois qu'on déconcerte l'autre, mais on est nous-mêmes déconcertés. Hein.
Oui, je crois que le père dans la vue, et lui-même a du mal aussi à se situer avec ses nouveaux repères qui changent jour après jour. Il a une vue fluctuante, changeante, et c'est difficile pour lui aussi d'avoir ses propres repères.
Tout à fait, tout à fait. On est toujours à la recherche de ses repères.
Et pour les voyants, donc cette lutte reste secrète. Enfin, je veux dire, le père dans la vue est un peu seul au fond pour lutter, pour essayer de combattre cette angoisse, parce que bien sûr ça provoque une angoisse terrible, une souffrance énorme.
Et je crois qu'effectivement le père dans la vue est terriblement seul, parce que même s'il est accompagné de quelqu'un qu'il aime, eh bien l'autre a du mal à comprendre. D'abord au début, on est relativement un peu agressif quand on se cogne, on est furieux après la porte dans laquelle on est rentré. Parce que ça nous a surpris. L'autre essaie de nous accompagner, mais parfois on l'envoie balader, parce qu'on se dit, mais il ne comprend pas, il ne me dit pas où sont les choses. Mais pour la personne voyante, c'est extrêmement difficile de percevoir ce que l'on perçoit ou ce qu'on ne perçoit pas.
Quand on a besoin d'eux ou quand on n'a pas besoin.
C'est ça. Si on nous aide trop, on n'est pas content.
Voilà.
Si on nous aide pas assez, on n'est pas content
voilà.
non plus. Donc il y a toute une période d'adaptation pour le père dans la vue et pour son conjoint, ses enfants, sa famille, qui n'est pas facile. Hein. Donc je crois qu'il faut expliquer au maximum ce qu'on perçoit.
Voilà, verbaliser au maximum, au risque, même si c'est difficile, quoi.
Puis parce qu'on veut garder son autonomie, c'est-à-dire que je crois qu'être un père dans la vue, on s'achemine aussi vers une perte d'autonomie. On pourrait parler de prendre la canne blanche, par exemple, ou pas, mais là, on a envie de garder notre autonomie. Donc on se bat pour garder notre autonomie, et parfois on se bat malencontreusement, on ferait mieux de demander de l'aide. Mais
oui,
bon, c'est difficile de trouver le juste milieu.
Oui, d'ailleurs, à un moment, vous dites « Le handicap peut être un lieu de surgissement de potentiel caché et d'émergence de ressources inexploitées qui révèlent le handicap comme lieu de violence, remettant en cause les acquis, ébranlant les repères, déstructurant l'identité. Le handicap oblige souvent à affronter l'insupportable. » C'est fort.
Ouais. Tout à fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à...
à ça.
Si vous voulez, je pense que lorsqu'on a, il y a deux positions peut-être à prendre. Soit lorsqu'on a, on est en situation de handicap, soit on va s'engouffrer dans cette situation de handicap et devenir dépendant et essayer de moins lutter, dépendre de l'autre, parce que c'est très lourd le handicap, quel qu'il soit visuel ou autre, c'est quelque chose de très lourd.
Oui, ou moteur, ou auditif.
Tout à fait. Ou même d'être de petite taille ou grand bruit, c'est très lourd. Oui. Hein. Alors, soit on va plutôt se mettre sur le côté passif, c'est ça que je cherchais comme terme, soit on va vivre son handicap passivement, soit on veut le vivre activement, parce que soit c'est notre histoire personnelle qui va nous amener à le vivre plutôt passivement, plutôt activement.
Puis le caractère, au départ.
Nos désirs, le caractère, tout ce que l'on... Bon, et donc je pense qu'effectivement, le handicap, si on ne se violente pas, entre guillemets, hein, intérieurement... Eh bien, je pense que l'on ne surmonte pas les aléas de la vie, parce que vivre avec une déficience, je déteste ce mot, mais c'est quand même ça, avec une blessure narcissique, avec un manque, avec une perte, eh bien, il faut, entre guillemets, se violenter pour rester toujours du côté des vivants, du côté des voyants. Et ça fait surgir au-dedans de nous beaucoup de choses inconnues. On ressent de la haine, on ressent de l'agressivité, on ressent du désespoir, on ressent de la dépression. Et mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que malgré tout cela, notre situation de personne handicapée nous permet de faire des rencontres extraordinaires. C'est là où il y a un surgissement, hein, et on va rencontrer des personnes, on va vivre des événements qu'on n'aurait peut-être jamais vécu si nous avions pas, si je n'avais pas eu, par exemple moi, je peux parler avec je, eh bien ma déficience visuelle. Je ne serais sûrement pas là aujourd'hui avec Claire, je n'aurais pas fait des rencontres extraordinaires que j'ai faites. Et c'est vrai, je me dis au fond, mon handicap, maintenant que je le vis à bras le corps, est une source de richesse.
Et c'est oui, ça tout un petit à peu fait. La différence est souvent, est source de richesse. Voilà. Bon, après, c'est sûr qu'au départ, il faut l'accepter et essayer de le faire comprendre aux autres et le vivre au jour le jour le mieux que l'on peut.
Tout à fait. Et c'est pour ça que mon livre est fracturé, j'allais dire, ou avec des séparations de poèmes, parce que personnellement, j'ai eu beaucoup de difficultés à vivre avec mon handicap visuel. C'est-à-dire que je pense qu'on ne fait jamais le deuil de ce que l'on possède encore, puisqu'on y voit toujours un tout petit peu. Donc je dis, on vit avec. Et j'essaie d'expliquer dans mon livre, parce qu'il y a d'autres théories et chacun est libre de prendre la théorie qu'il désire, c'est que je crois qu'on a du mal à faire le deuil de ce que l'on possède encore, puisqu'effectivement, les perdants de la vue ne sont jamais vraiment aveugles. On est dans le brouillard, on distingue même toujours la lumière du noir, et on a toujours l'impression que tout d'un coup, au détour d'un chemin, on va percevoir quelque chose. Et ce qui peut arriver dans un minuscule champ visuel qui nous reste, on peut un jour, entre chien et loup, l'heure la plus propice pour les perdants la vue, distinguer un arbre, une montagne, et on se dit, mais il m'en reste encore quelque chose. Donc on a toujours envie de garder ce regard qui permet toujours encore de se dire... J'ai pas tout perdu. C'est ça le problème des perdants.
Et en tant que psychanalyste, donc pour essayer de mieux accepter son handicap et essayer de le vivre au mieux, vous, en tant que psychanalyste, vous recevez, bon, c'est pas la majorité des cas que vous recevez, mais vous recevez des déficients visuels et que vous pouvez aider justement de par votre parcours à vous, enfin votre expérience, et que pour essayer qu'ils soient, enfin justement vous parlez de haine, de dépression, enfin pour qu'ils arrivent à gérer toutes ces émotions au cours de leur parcours de perdant la vue.
Oui, je crois
qu'on peut arriver à trouver un peu, comment dire, une certaine sérénité, un certain équilibre.
Oui, moi je pense profondément que lorsqu'on a quel que soit le handicap qu'on peut avoir, et plus particulièrement le handicap visuel qui renvoie à une blessure narcissique terrible, on a
oui,
tout
ça
à fait
peur. L'aveugle fait peur.
Exactement.
Ça, de toute façon, je crois que c'est depuis
bien,
la nuit des temps, le noir, la perte de vision, les yeux, c'est des choses qui
tout
sont
à fait.
Très...
Les mythes qui concernent... Bon. Et alors, je pense qu'on a intérêt à aller rencontrer quelqu'un, un psychothérapeute, et puis de raconter son histoire de perdant la vue. Et cette histoire, elle va permettre déjà de mettre en mots la souffrance. Et puis, lorsque l'autre écoute, eh bien, il va y avoir un échange... Et surtout, on va pouvoir travailler la perte et le manque, qui renvoie, bien entendu, je le dis dans le livre, à la castration, qui est quelque chose d'extrêmement terrible, d'être dans la perte, d'être dans le manque, d'être dans la différence. Et rencontrer un thérapeute, c'est pouvoir lui dire tout ça, sa souffrance, ses espoirs déçus, son espérance, son agressivité, ce qui se passe avec ses enfants, ce qui se passe avec son conjoint, parce que perdre la vue, ça déséquilibre l'équilibre familial. Donc il faut se réadapter, réinventer sa vie de famille, réinventer sa relation avec ses enfants.
Sur des nouveaux repères.
Et puis que les enfants partage, hein. Oui. Je parle de mes deux enfants dans le livre. Eh bien, bon, chacun à sa manière, il a vécu ma perte visuelle avec sa personnalité. L'un est un garçon, l'autre est une fille. Et effectivement, ils l'ont vécu complètement différemment. Donc, je crois qu'il faut pouvoir leur expliquer. Et puis, avec Alain, mon mari, qui est à côté de moi également, pour le conjoint, c'est difficile. Pour les enfants, c'est difficile. Donc, il faut en parler. Même si parfois on se met en colère parce qu'on est énervé, qu'ils n'aient pas compris, c'est normal, on est vivant. Hein. C'est bien rester du côté des vivants. Et leur dire, c'est pas parce qu'on perd la vue qu'on n'est pas une femme, moi je suis une femme, et une citoyenne à part entière. Et je crois que mes enfants et mon mari et mes amis, eh bien, ils se rendent compte que malgré ma perte visuelle, je suis vraiment insérée dans la société d'aujourd'hui et que je peux faire beaucoup de choses. Le message de mon livre, c'est de dire, c'est pas parce qu'on perd la vue qu'on doit rester enfermé chez soi. On peut perdre la vue, mais on peut être des citoyens à part entière et vivre à plein et être heureux de vivre.
Je vais demander à Alain de lire ça, s'il veut bien. Bah déjà de parler un petit peu de lui en tant que votre époux, donc en tant que voilà, qu'il est à vos côtés donc depuis de nombreuses années.
Plus de 30 ans.
Voilà, plus de 30 ans. Et donc déjà voilà, voir un petit peu avec lui comment ça se passe au quotidien, comment il a vécu cette situation au jour le jour.
Alors, je voudrais quand même dire une première chose pour qu'il n'y ait pas de méprise. Quand j'ai épousé Maudit, quand nous sommes épousés, il y a plus de 30 ans, donc c'est la préhistoire, je n'ai pas épousé une handicapée, je n'ai pas épousé une déficiente visuelle. J'ai épousé Maudit Jacomet, qui avait des caractéristiques personnelles telles que d'être catalane, d'être lacanienne et d'être perdant la vue également. Ça faisait partie de...
Oui, elle n'a pas caché, ne vous a pas
elle
caché,
pas caché ça, sa maladie. Ce n'est pas son handicap que j'ai épousé, c'est elle, c'est Maudit.
Oui, c'est important, oui, tout à fait, c'est important de le dire.
Et alors, cette expérience de vie commune à travers le fait de perdre la vue, ça a été et des moments de partage et des moments aussi plus difficiles d'incompréhension, comme le disait tout à l'heure Maudit, parce que celui qui voit, en l'occurrence moi, n'arrive pas toujours à se représenter ce que l'autre
ne voit
pas
plus.
Ou ne
voilà.
voit plus.
Tout à fait.
D'où des difficultés, des ajustements réciproques continuels pour continuer cette aventure commune, effectivement.
Et des émotions peut-être à gérer aussi.
Des émotions
voilà,
à gérer
avec
aussi,
la haine, la dépression, les angoisses, la besoin ouais. d'être assurée peut-être aussi.
Il y a eu des moments où j'étais très angoissé dès que Maudit avait 5 minutes de retard. Alors, ce qui a beaucoup, beaucoup désangoissé moi, c'est le jour où elle a eu son chien guide.
L'Oxley,
le premier.
Ah, vous en parlez d'ailleurs dans le livre. Hein, ouais. Oui, vous avez eu un chien extraordinaire.
Une certaine garantie de
sécurité.
De sécurité, exactement.
Oui. Avec Chadou aussi, le deuxième qui est ici
voilà,
aujourd'hui.
Voilà, qui est à côté de vous. Voilà.
Qui dort à côté de nous.
Ouais. Donc oui, le chien guide, c'est vrai que c'est sécurisant. Puis bon, la canne aussi, peut-être dans un premier temps, au départ aussi.
La canne
un peu, oui aussi. Mais
enfin, le chien, c'est vrai que c'est quand chien, même c'est une valeur vivante. Enfin, c'est quand même quelque chose de différent par rapport à la canne.
Le chien guide, je crois que ça t'a beaucoup désangoissé à un moment donné où j'ai eu l'Oxley, parce que j'étais en pleine sécurité. D'ailleurs, Alain m'accompagnait beaucoup, venait me chercher beaucoup à mon travail ou ailleurs. Au moment où j'ai eu le chien, il a eu plus d'autonomie.
Lui aussi. Finalement, ça donne de l'autonomie à tout le monde.
Exactement.
Et vous vouliez, dire encore autre chose, Alain, par rapport donc à ce livre. Donc, vous l'avez écrit en combien de temps, Maudit, ce livre?
Ce livre, au départ, j'ai fait mon DEA. Et puis, s'il n'y avait pas eu Alain, parce que c'est compliqué de faire un livre, et puis surtout que nous l'avons édité chez l'Harmattan, et c'est nous qui devons tout faire, donc c'est Alain qui l'a complètement retapé. S'il ne m'avait pas poussé, il ne serait jamais sorti. Parce que vous voyez, on décrit le livre, une fois qu'on l'a écrit, on a l'impression, ça y est, on a fait ce qu'on avait, on a mis au monde ce qu'on avait envie de mettre au monde.
On est arrivé, au but qu'on s'était fixé.
Voilà, mais pour que ça soit fini, pour aller vraiment jusqu'au bout, il fallait qu'il paraisse ce livre. Et ça, heureusement qu'il y a eu Alain, qui m'a vraiment dit, allez, finis-le, ce livre, finissons-le, et c'est lui qui l'a tout retapé. Et d'ailleurs, il va vous parler de la couverture, c'est lui qui a fait la couverture du livre, parce que chez l'Harmattan, on fait tout soi-même.
C'est une superbe photo, donc, Alain.
Oui, c'est ça, nous voulions proposer à l'Harmattan une couverture, pour être sûr de que ce soit ce qui nous ferait plaisir. Et comme Maudit parle assez souvent dans son livre et ailleurs, de la perte de vue comme un soleil qui se couche à l'horizon le soir, j'avais envie de trouver un coucher de soleil. Bon. Alors, dans nos photos de voyage, etc.
Oui, parce que vous avez beaucoup voyagé.
Nous avons beaucoup voyagé, oui. J'ai trouvé une photo que nous avions prise il y a juste un an, c'était à Pâques 2004, hein, c'est au Sri Lanka, d'un coucher de soleil sur une plage, que j'aime bien, moi. Et c'est cette photo que nous avons prise comme couverture.
Oui,
alors, pour la petite histoire, c'est une plage où nous avons failli nous noyer, déjà, à l'époque, avec les courants terribles qu'il y a là-bas. Le livre est sorti le 3 décembre
2004,
et quelques jours après, le raz-de-marée qui a fait autant de morts, et certainement des amis à nous qui étaient là-bas.
Donc, sur cette même plage, en fait, la photo...
Oui, à quelques kilomètres près,
c'est le lieu de la tragédie de décembre 2004.
Exactement.
Et je trouve que c'est très symbolique, parce que très souvent, les personnes se trompent, on dit « je perds la vie », au lieu de dire « je perds la vue ». Et là, comme s'il y avait un concentré... de « je perds la vue, je perds la vie ». Parce qu'effectivement, quand on perd la vue, on a l'impression qu'on perd sa vie. Et pour moi, ça a une force extraordinaire, ce coucher de soleil qu'a pris Alain, parce qu'en une couverture, il y a le symbole de ce que c'est que de perdre la vue, justement. Et je trouve ça très fort. Bon, c'est les coïncidences, c'est le hasard de la vie.
Oui, tout à fait. Et donc, vous avez fait une superbe postface, Alain.
Je ne sais pas si elle est superbe.
Ah, bah, si, elle est superbe.
Moi, j'aime beaucoup.
Elle est superbe.
D'ailleurs, si vous voulez la lire, ça donnerait une idée.
Je vais tout lire, mais.
Ça donnerait une idée aux auditeurs et aux auditrices de ce que peut ressentir, justement, ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé.
Celui qui nous accompagne jour après jour aussi.
Tout à fait.
Alors, j'achève la lecture de ce recueil de textes, de poèmes, de cris, de témoignages. À vrai dire, je les connais par cœur. Il est dans mes oreilles, dans mes doigts et bien sûr dans mes yeux. Je dirais même, je le connais avec le cœur, car tout ce que tu dis, je l'ai vécu auprès de toi, comme l'autre, avec un grand A, dont tu parles si souvent. Et moi, l'autre, je ressens maintenant une douleur étrange, une angoisse indéfinissable. Je t'ai vu perdre la vue, je t'ai vécu perdant la vue. Mon admiration face à ton courage, à ton dynamisme, inutile d'en parler. Par contre, je constate une faille, une cassure, comme la terre peut s'ouvrir en deux après un tremblement de terre. Sur une rive, plus tu perds la vue, et maintenant tes yeux s'en sont vraiment allés. Et plus tu entreprends, plus tu grandis, te construis, te bats, crées, réalises des choses splendides. Sur l'autre rive, plus tu perds la vue, où s'en est-elle allée? Et plus les choses de la vie quotidienne s'échappent de tes mains. L'autonomie dont tu parles si souvent, tu la possèdes pour les grandes œuvres, si je puis dire, mais tu te bats pour la reconquérir dans les petits gestes de tous les jours. Tu le dis parfois avec des larmes, tu as besoin d'aide, tu as besoin de moi, et moi j'ai peur. J'ai peur de ne plus être là, j'ai peur de ne plus être l'autre à côté de toi, comme si j'étais indispensable. Mais non. Mais si. Enfin, peut-être. C'est ça, la perte.
C'est magnifique ce qu'il a écrit, Alain.
Oui.
Et ça m'émeut toujours de la même manière.
Eh bien, voilà, c'est un éternel recommencement à
Exactement,
chaque fois que...
Ouais.
Non, c'est un très beau livre, donc il faut signaler que ce livre est donc est émaillé de poèmes écrits par Modipio, bien sûr, qui sont très, très imagés, on va dire, très colorés des fois, très... très poétique, bien sûr. Hein. C'est pas des poèmes qui riment, tout
non,
ça.
Ce sont non,
des,
non.
plus, comment on peut dire, des.
Ben c'est un cri, oui, des, c'est ça, voilà, c'est un cri. Des... Comme, parce que je pense que ces poèmes, je les ai écrits, c'est ça qui est un peu ma caractéristique. Je les ai écrits d'un jet et je peux pas trop les retoucher. C'est dans des moments, parce que moi, j'ai vécu très mal de perdre la vue. Maintenant, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai fait un long travail psychanalytique moi-même.
Donc, on peut en parler,
plus. C'est ça. Et donc, ces poèmes, ce sont des périodes où tout d'un coup, je me mettais à écrire sur l'ordinateur ou bien avec mes mains, quand je pouvais encore écrire moi-même, sans l'intermédiaire de l'ordinateur, c'était un cri de désespoir ou bien un cri de joie ou bien un cri, c'est des cris. Voilà, je dis que ces poèmes, c'est des cris qui ont parcouru ma vie. Et avec Alain, lorsque nous avons construit le livre, eh bien, on s'est dit, ça serait sympa, ça serait original de les intercaler entre les chapitres.
Tout à fait, entre les chapitres, oui. Voilà. Donc je vais rappeler, il nous reste peu de temps avant de conclure cette émission très riche et très émouvante. Donc je rappelle le titre du livre de Modipio, « Mes yeux s'en sont allés », aux éditions L'Harmattan à Paris. Donc il est disponible
dans toutes les librairies si on le commande.
Voilà.
Il suffit de le commander.
Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous demandez donc « Mes yeux s'en sont allés » de Modipio. Il vous le commande directement aux éditions L'Harmattan et vous revenez le chercher. Voilà.
Il y a trois versions.
Trois versions. Donc la version normale, la version agrandie et la version en CD audio.
Oui, et je me suis beaucoup battue pour que les trois versions sortent en même temps. Je crois que c'est c'est le premier livre prix. Et au même prix.
Voilà. Pour donc il est de 25 euros aussi. Voilà. Voilà. Tout à fait. Bon, ça c'est très important. Ouais. Et donc voilà. Donc Mes yeux s'en sont allés, édition L'Harmattan. Moi je voudrais simplement dire que si vous avez une idée ou si vous avez vous n'avez pas eu le temps de noter un renseignement, j'ai une adresse de mail de mon émission à présent que je vous livre. Donc Claire Livre au singulier attaché en minuscule bien sûr @yahoo.fr clairelivre@yahoo.fr où vous pouvez me laisser vos messages, vos idées, vos suggestions, vos avis aussi, hein, vos impressions, si vous avez aimé, pas aimé, et aussi si vous avez si vous n'avez pas eu le temps de noter un renseignement ou le nom d'un auteur ou le nom d'un livre, vous n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous répondrai avec plaisir. Et je vais remercier très chaleureusement Maudipio d'être venu jusqu'à Toulouse.
Mais c'est moi, Claire, qui vous remercie et vous tous, auditeurs et auditrices qui nous avez écoutés.
Et je vous engage voilà. vraiment à lire son livre parce que même si on n'est pas concerné directement, je pense que ça ouvre sur beaucoup, ça ouvre l'esprit, quoi. Je veux dire, on apprend peut-être après quand on rencontre quelqu'un qui a une canne ou qui est handicapé dans la rue, je pense que ça change forcément le regard.
Et si vous voulez me contacter, vous passez par Claire, il n'y a aucun
voilà,
problème.
Voilà, tout à fait. Et merci à Alain.
Oui. Hein,
et bien, au revoir beaucoup. À tous.
Voilà. Bonne journée.
Merci. À jeudi prochain. Au revoir. Vous écoutez Radio Occitanie et je vous laisse en compagnie de votre émission en langue portugaise.
Radio Occitanie.